sale.
Bonjour à tous, le sommaire de ce mardi midi. Le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF organise en ce moment, en liaison avec la Direction générale du contrôle, le séminaire de formation des contrôleurs financiers à la méthodologie de l'audit interne. Cette formation permettra ainsi de contribuer à une performance plus accrue des cadres de la Direction du contrôle financier. Depuis le week-end dernier, un drame secouait le village de Niangban, situé dans la sous-préfecture de Guébonois, département de Boaké. Bien, 7 personnes sont mortes après avoir consommé de la bouillie de maïs. Plusieurs autres victimes sont hospitalisées au CHU de Boaké. Nous en parlerons avec Joseph Assalé, notre correspondant sur place. Dans l'actualité internationale, l'Assemblée générale de l'ONU, Lula da Silva, le président brésilien, sera au rendez-vous dans la foulée du G77 qui s'est tenu à Cuba. Son rendez-vous avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, voilà, est particulièrement très attendu. Et puis en fin d'édition, Jean-Claude Comé recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction, professeur Arthur Banga, enseignant d'histoire et analyste politique. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Dans le cadre de ces activités, le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF organise en ce moment, en liaison avec la Direction générale du contrôle, le séminaire de formation des contrôleurs financiers à la méthodologie de l'audit interne. Eh bien, cette formation permettra ainsi de contribuer à une performance plus accrue des cadres de la Direction du contrôle financier. Didier Blé a suivi l'ouverture de la première session mardi dernier. Voici son compte-rendu.
En organisant cette formation, la BAD, à travers le PAGEF, s'inscrit dans le renforcement des administrations en vue de contribuer à la réforme de l'exercice du contrôle. Professeur Lambert Bomban Galadjo, coordonnateur du PAGEF.
Cette formation se focalise sur la définition des fondamentaux de l'audit interne, notamment les concepts de gouvernance et de gestion des risques, la sécurité de l'information, la gestion de la fonction d'audit interne, le suivi des actions et recommandations d'une mission d'audit interne. L'audit interne, dans un contexte de modernisation de la gestion publique, assure une noble mission, telle qui consiste à donner à chaque ministère l'assurance que les dispositifs de contrôle interne en place sont efficaces, la maîtrise des risques et la sécurisation des processus comptables et financiers.
L'importance de l'audit interne dans la gestion des finances publiques n'est plus à démontrer. Nda Kaku Ange, directeur du contrôle financier.
Il s'agit d'un élément essentiel de gouvernance financière responsable, de reddition des comptes et surtout de confiance de nos populations. En tant que contrôleurs financiers, nous avons un rôle crucial à jouer dans la préservation de l'intégrité des finances publiques et d'améliorer de manière permanente, dynamique, tous les différents processus budgétaires et comptables.
Ce séminaire se déroule en deux phases, du 11 au 18 septembre pour la première et du 18 au 23 septembre pour la seconde. Simultanément à Abidjan et à Yamoussoukro, il s'agit en tout de 80 contrôleurs financiers qui seront formés à la méthodologie de l'audit interne.
Voilà, il s'agissait donc de méthodologie de l'audit interne, précisément. Et le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Maître René Bourguin, a encouragé dernièrement à la Maison de la Presse direction d'Abidjan Plateau, les journalistes à observer scrupuleusement les principes d'éthique et de déontologie. Ils s'exprimaient lors de la 22e session de l'ANP Academy qui avait pour thème vie privée, diffamation, atteinte à la dignité humaine et intérêt général. Comment informer sans nuire ? Nous l'écoutons.
Comment peut-on informer sans nuire? La réponse sans ambages est affirmative. On peut informer sans nuire, mais comment? Il est possible d'informer sans nuire à la condition évidente de respecter certains principes et certaines normes journalistiques. Il est important de trouver un équilibre entre le droit à l'information et le respect de la vie privée des personnes. Comment informer sans nuire? D'abord, il y a un besoin d'objectivité. Présenter les faits de manière impartiale, sans biais ou jugement de valeur. En second lieu, un devoir de précision, vérifier les sources et s'assurer que les informations partagées sont exactes et fiables. Besoin d'équilibre, donner différents points de vue et en évitant de favoriser une perspective particulière. Sensibilité, être conscient de l'impact des mots et savoir que ces mots peuvent avoir des conséquences. Fournir un contexte approprié pour aider les personnes à comprendre ce que vous voulez donner comme information. Et puis, respect de la vie privée. Protéger la confidentialité des personnes et éviter de divulguer des informations personnelles sans consentement. Garder ces principes à l'esprit peut aider à informer de manière responsable et éthique en minimisant les préjudices potentiels.
Voilà, c'était le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Maître René Bourgoin. L'application mobile Hotel Registration Application a été développée par la Police Nationale de Côte d'Ivoire pour moderniser le traitement des informations hôtelières et renforcer le système de contrôle et de sécurité. Une présentation de ce nouvel outil a eu lieu le week-end dernier dans les locaux de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'État de l'État à Korogo. Les échos avec Marcel Bonny.
Bien plus qu'une question de modernité, l'application Aura est une opportunité. Le commissaire divisionnaire-major Touré Albert Kouakou, par ailleurs directeur de l'école de police Amadou Gonkoulibaly de Korogo, explique.
Aura est pour les professionnels de la sécurité un outil qui vient renforcer la lutte contre le terrorisme et les activités illicites connexes, ainsi que la recherche à temps réel d'individus à risque, à condition qu'ils aient dormi dans un réceptif hôtelier et qu'ils aient été convenablement enregistrés sur la plateforme dédiée par la réception de l'établissement.
Un aspect sécuritaire détaillé par le commissaire principal, Alou Ebrin Vincent.
Digitaliser la fiche d'hôtel, ça nous permet d'aller un peu plus vite dans nos recherches. Donc c'est centraliser toutes les données sur l'ensemble du territoire et puis faire des recherches en temps réel sur des personnes et enfin produire des statistiques fiables.
Au-delà, on retient d'autres enjeux pour les hôteliers, soulignés par Kone Pelaoutiria, directrice régionale du tourisme de Korogo.
L'enjeu économique, car vous n'aurez plus à acheter des cartes. Il y a aussi un enjeu promotionnel, dans la mesure où cette application permet de vous géolocaliser pour permettre à vos clients de vous retrouver plus rapidement.
L'application Aura sera prioritairement déployée dans les villes qui accueilleront les matchs de la CAN 2023, avant d'être étendue sur l'ensemble du territoire pour renforcer le système de contrôle et de sécurité. En recoupant les informations. Marcel Bonnet, Korogo, Radio de la Paix.
Hôtellerie, toujours, on en parle à quelques mois seulement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Les acteurs du tourisme s'organisent pour la réussite de l'événement footballistique là-bas à San Pedro. L'investiture du président de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire a servi de cadre pour présenter les perspectives et défis à relever pour une meilleure organisation du secteur. Des détails avec Benson Kofi, c'est notre correspondant dans le Bassa Sandara.
La FENITOURSI, la Fédération Nationale de l'Industrie Touristique des Côtes d'Ivoire, qui regroupe les acteurs de l'hôtellerie, les agences de voyage, de la restauration, de location de véhicules, de l'artisanat d'art, consciente de sa valeur, doit se préparer pour la CAN, selon Diomandé Mamadou, président national de la FENITOURSI.
Notre secteur, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Et avec l'événement de la CAN, je dirais que l'investisseur est venu en point nommé. L'avenir, ce n'est pas les matières premières, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le cacao, ce sont les services. Les prix de chambre, les prix de nos mets en Côte d'Ivoire, le Kédjenou, le poisson braisé, c'est nous qui les fixons. Nous avons 555 km de façade maritime inexploitée. Avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, j'ai beaucoup espoir à l'avenir et on va relever le défi.
Pour le président de la FENUTOSI, section San Pedro, Doudou Mbaye, fraîchement investi, les défis à relever sont identifiés.
Le défi 1, c'est de recenser tous ceux qui sont dans les sites aussi pour qu'ils puissent être reconnus vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Le défi 2, c'est de former les professionnels du tourisme. Parce que le touriste, c'est celui qui se déplace d'un bout à un autre bout. Et quand il vient, il faut qu'il soit pris en charge. D'abord, bien le recevoir, qu'il arrive à bien dormir, qu'il arrive à bien manger, bien se balader, visiter les sites touristiques. Il faut qu'il retourne avec un souvenir. San Pedro va accueillir la CAN. Nous sommes fin prêts. Dieu merci, nous avons eu le match de Lesotho, nous avons fait un match test. Donc aujourd'hui, il y a encore de couches de pinceau à mettre, à enlever les toits d'araignée pour montrer un tourisme de qualité.
Il faut donc s'activer à faire en sorte que les touristes optent massivement pour la destination San Pedro après la CAN. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Depuis le week-end dernier, un drame secouait le village de Niangban, oui, un village situé dans la sous-préfecture de Guébonois, département de Boaké. Sept personnes sont mortes après avoir consommé de la bouillie de maïs et bien plusieurs autres victimes sont hospitalisées au CHU de Boaké, d'où nous appelle justement Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Boaké.
Comme à leur habitude, plusieurs habitants du village de Niangban dans la sous-préfecture de Guébonois se ravitaillent en bouillie de maïs chez la vendeuse A. C'est après avoir consommé l'aliment que tout se complique. Témoignage de parents de quelques victimes.
Le garçon, 3 ans. Première fois, il avait diarrhée. Le champ là-bas, à midi, matin. On est venu à la maison, il ne chauffe pas. Mais j'étais faible, on est parti à l'hôpital. Nous avons eu un médicament.
Ils ont pillé la pluie à la maison ici. Quand ils ont consommé, ils sont allés au champ. Ils ont constaté que les enfants des injections. Elles ont envoyé les enfants à l'hôpital.
Parmi la trentaine de personnes évacuées au CHU de Boaké, 7 enfants vont perdre l'âme.
La femme qui vend la bouillie, elle a perdu elle-même un enfant. Est-ce que vous comprenez?
2. La femme a perdu 2 enfants. Il y a 2 qui sont en cause.
Dans la localité de Niangban, c'est la consternation. Kofi Kwadio Célestin, notable du village, appelle au calme tout en souhaitant que les causes de ces décès soient révélées.
Savoir ce qui s'est passé, si c'est la bouillie ou pas. Il faut qu'on ait un centre de santé ici parce que voyez-vous ces cas-là? Que peut se passer demain? On a 2 pommes.
Mais en attendant les résultats de l'enquête, le sous-préfet de Guébonois s'est rendu sur les lieux en vue de s'imprégner de la situation. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Éducation, formation à présent. Et là, nous retournons à Abidjan. L'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse hier lundi à son siège à Trècheville. L'objectif de cette rencontre était de se prononcer sur la décision contre controversé de supprimer le tronc commun en médecine. Là-dessus, écoutant Claude Akakadio, il est le président de la dite association, justifie les raisons de cette décision.
Le problème fondamental, c'est une question de capacité d'accueil. Et il y a une sélection de sorties. Quand on les met tous ensemble là, font ce qu'on appelle un tronc commun et à la fin, on les teste et on prend les meilleurs pour aller en deuxième année. Il y a des étudiants qui abandonnent parfois les études. Et quand c'est comme ça, les parents qui ont les moyens, eh bien, ils envoient leurs enfants à l'étranger. Mais quand on parle de l'école, on parle de l'école pour tous. Donc, le ministre est venu, il a vu cela. Désormais, comme il y a de nouvelles universités qui sont créées, bon, il n'y aura pas que à Bouba Diané seul, on va donc désengorger et permettre de donner une formation adéquate parce que les effectifs vont se réduire. Là, mais ça ne veut pas dire que le ministre décide de supprimer la valeur de la formation pour choisir les meilleurs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de centres de santé en région. Les centres de santé sont construits, mais il n'y a pas de médecins. Et donc, ces centres de santé sont vides. Si on forme suffisamment de jeunes, ça va aider à soulager les parents sur tous les plans. Voilà pourquoi nous, en tant qu'organisation des parents d'élèves, nous soutenons cette idée-là de supprimer le tronc commun, mais de maintenir toujours la rigueur. Nous avons donc proposé au ministre de jouer son va-tout pour qu'il y ait encore plus d'universités, de sorte que nous ayons des médecins bien formés.
Voilà, à l'instant, Claude Akakadjo, il est le président de l'OPC, l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Les personnes handicapées veulent faire entendre leur voix auprès du gouvernement ivoirien afin, disent-elles, que leurs droits soient véritablement pris en compte dans tous les aspects de la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs ce qui justifie une campagne de plaidoyer qui a commencé au début du mois de septembre pour s'achever le 19 du même mois. Des détails avec Richard Anguessan, chef du projet autonomisation économique des personnes handicapées à la section ivoirienne de l'ONG britannique Site Savers.
Les personnes handicapées, de façon générale dans le monde entier, particulièrement en Côte d'Ivoire, sont victimes d'exclusion, que ce soit sur le plan social, dans les institutions socio-professionnelles, sur le plan volet économique. Donc, Type Savers, il promeut l'inclusion sociale des personnes handicapées. Je souhaiterais mener cette campagne auprès du gouvernement ivoirien dans le but de faire entendre la voix des personnes handicapées dans toutes les composantes de la société, c'est-à-dire au niveau de l'inclusion sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan économique, l'accessibilité, tout ce qui concerne les droits des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. C'est une campagne d'arrêt mondiale, mais dans chaque bureau pays, nous accompagnons les organisations des personnes handicapées pour mener cette campagne-là. Le gouvernement a assez fait, mais je pense que le gouvernement doit encore doubler d'ardeur pour faire avancer vraiment les droits des personnes handicapées dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire. Il faut rendre les cadres de travail accessibles pour les personnes handicapées. Le recrutement des personnes handicapées à la fonction publique avec la loi d'orientation 98, il faut augmenter le nombre de personnes handicapées qu'on doit recruter la fonction publique. Il faut également le bien-être, la protection sociale des personnes handicapées, c'est-à-dire tout ce qui concerne les droits des personnes handicapées. En fait. Donc, nous soutenons les personnes handicapées de Côte d'Ivoire à pouvoir mener cette campagne afin que leurs droits soient pris en compte dans tous les aspects, dans tous les domaines de la Côte d'Ivoire.
Voilà à l'instant Richard Anguessan, chef du projet autonomisation économique des personnes handicapées à la section ivoirienne de l'ONG britannique Site Savers. Juste un mot de l'actualité internationale à New York. Comme le veut la tradition, Lula sera le premier chef d'État à prendre la parole aujourd'hui mardi lors de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU. Tout au long de ce rendez-vous qui doit se tenir jusqu'au 25 septembre, le Brésilien va devoir trouver un équilibre entre son rôle de porte-parole du Sud global et celui d'interlocuteur des grandes nations, d'autant plus qu'il s'apprête à rencontrer le président américain Joe Biden. Et Lula, qui vient, n'est-ce pas, de faire escale à Cuba, va encore demander la levée des sanctions contre la Havane et prendre la défense des pays africains sans entrer toutefois dans les détails. Il demande à ses interlocuteurs des pays en développement de ne pas, n'est-ce pas, se diviser. Sans transition, à présent, l'invité de la rédaction élection sénatoriale 2023. Les résultats, vous le savez, ont été publiés le samedi 16 septembre dernier par la commission électorale indépendante et comme aux élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. Et bien, c'est le RHDP qui sort vainqueur de ces élections, des représentants de la Chambre haute du Parlement ivoirien avec 56 sénateurs élus, contre 6 pour le PDCI et 2 sénateurs indépendants. Comment expliquer cette razzia du RHDP et la perte de terrain de l'opposition et surtout quelle interprétation peut-on fait par rapport à la présidentielle de 2025. Jean-Claude Comé a posé cette différente question au professeur Arthur Banga. Il est enseignant en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, également analyste politique dans l'invité de la rédaction.
Professeur Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
Les sénatoriales, c'est terminé. Quelles leçons vous en tirez par rapport à ces résultats?
En fait, les résultats des sénatoriales dépendent eux-mêmes des résultats des municipales et des régionales. Donc, on sait à peu près les forces qui doivent se dégager de ces élections. Donc, sans surprise, le RHDP, dans la dynamique des locales, a pu avoir 56 élus. Donc, ce qui montre aujourd'hui la domination, ou j'ai envie de dire l'ultra-domination du RHDP dans les joutes électorales. On voit aussi la résistance, malgré tout, du PDC-RDA, qui, même si est passé d'une dizaine de sénateurs à 6 sénateurs aujourd'hui, je trouve quand même que c'est un parti qui résiste relativement bien et qui peut être le fer de lance de l'opposition. Après, les indépendants sont présents aussi. Et donc, en gros, les sénatoriales ont conservé la dynamique des élections locales avec une forte domination. domination du RHDP.
Alors justement, cette domination, hein, pour vous, quel signal cela renvoie en termes démocratiques?
En termes démocratiques, parce que là, on a environ 87% des sièges qui sont détenus par le RHDP. Ça fait un chiffre quand même énorme et qui peut laisser transparaître des faiblesses dans notre démocratie par rapport à cette ultra-domination. Puis après, ça montre aussi le malaise des partis de l'opposition, l'absence du PPACI et plus globalement de la gauche ivoirienne qui, pour moi, émane de l'émiettement et du manque de discours régulier de cette branche politique en Côte d'Ivoire.
Alors, l'Assemblée nationale est à dominante du RHDP, le Sénat également. Est-ce que, pour vous, cela peut permettre un véritable débat démocratique au sein de ces deux chambres du Parlement?
Non, le gros problème du Sénat, c'est qu'à l'état actuel, il n'y a qu'un seul groupe parlementaire qui peut se constituer. Parce que pour avoir un groupe parlementaire, il faut 8 élus, alors que le PDC n'en a que 6. Mais le chef de l'État, dans notre configuration, peut encore nommer 33 sénateurs. On espère qu'il pourra nommer des personnalités du PDC-RDA de façon à pouvoir porter un groupe parlementaire. Voilà, parce qu'à partir du moment où il y a le groupe parlementaire, il y a le débat parlementaire. Parce que chaque groupe parlementaire aura la possibilité de se prononcer face au projet de loi, aux propositions de loi qui viendront. Donc ça alimente déjà le débat parlementaire. Il faut réfléchir aussi à faire progresser notre système électoral du point de vue du financement des campagnes, du point de vue des tours, peut-être des élections à deux tours qui vont permettre quand même à l'opposition d'être un peu plus représentée au sein du Parlement. Je pense qu'une opposition plus représentée au sein du Parlement est une chance pour la démocratie plus qu'autre chose. Donc il faut avoir une réflexion, mais la réflexion doit se mener au sein des partis d'opposition qui n'arrivent pas à occuper des terrains, n'arrive pas à émettre des idées. Mais il faut une remise en cause des oppositions. Aujourd'hui, est-ce que les oppositions ont des discours qui marient l'aspiration des peuples? Il faut un vrai questionnement des oppositions, parce qu'on a connu la grande gloire des oppositions en Afrique, avec le FPI de Laurent Gbagbo, dans certains partis comme le PDS au Sénégal. Il y avait une sorte de crédibilité, il y avait une sorte de discours cohérent. À l'époque, Laurent Gbagbo n'était pas encore président de la République, mais on savait déjà ce qu'il allait faire. Il parlait déjà des codes gratuites, il parlait déjà de décentralisation. Mais aujourd'hui, quel est le discours que porte cette opposition? On ne sent pas aujourd'hui des propositions, on ne sent pas aujourd'hui les idées que vont porter l'opposition. À l'époque, on sentait leurs idées, on savait ce qu'ils allaient faire, ils drainaient du monde.
Alors, mais certains conseillers, hein, fraîchement élus, surtout des conseillers de l'opposition, avaient souhaité que cette élection soit décalée pour que les contentieux donc électoraux en ce qui concerne donc les régionales et municipales soient vidés avant ces élections. Est-ce que vous partagez cette position?
Oui, on peut la comprendre dans une certaine mesure, on peut la comprendre. Mais la CEI a répondu à cela. Mais aussi, on a une obligation constitutionnelle parce qu'avec la nouvelle révision constitutionnelle, il y a la saison parlementaire qui s'ouvre en octobre. Et il fallait donc avoir ces élections-là pour pouvoir rester dans les clous de la Constitution. Mais je pense que les prochaines fois, il faut améliorer les dates, soit avancer d'un mois les dates ou même de 2 mois pour ne pas tomber en pleine vacances. Et puis, à partir de là, laisser le temps au recours avant de se fermer. Il y a un impératif constitutionnel.
Par rapport aux perspectives pour la présidentielle, les sénatoriales sont pratiquement les dernières élections avant 2025. Est-ce qu'on peut présager déjà, au vu de ces résultats, de ce qui va advenir de ces élections?
Non, je pense que le RHDP est en pole position. C'est le premier parti de Côte d'Ivoire. Mais est-ce le parti majoritaire de Côte d'Ivoire? C'est toute la question que le RHDP doit se poser aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on regarde les sénatoriales et locales, il y a une ultra-domination. Mais attention, c'est à peu près un tiers du corps électoral qui s'est mobilisé. Donc il reste encore 2 bons tiers qui peuvent faire la différence en 2025. On ne sait pas où ces 2 tiers-là vont voter, avec en plus les nouveaux inscrits qui viendront. Et donc, ça serait un autre match. Un autre match parce qu'il y aura d'autres enjeux. Et en plus, il y a 2 ans d'ici à 2025, que vont faire les élus locaux RHDP? Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Ça, c'est important. Est-ce que certaines crises sociales pourront avoir des solutions? Quels seront les candidats de l'opposition? Est-ce qu'ils pourront avoir un discours plus nouveau, plus attrayant? Est-ce que l'opposition va se mettre en bloc? Il y a toutes ces questions-là qui font que le match reste ouvert pour 2025, même s'il y a un favori. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que l'élection de 2025 est bouclé et légéré.
Professeur Arthur Banga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, à l'instant, Jean-Claude Comé était avec professeur Arthur Banga, enseignant en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny et également analyste politique. C'était dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel de 2 titres. Le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF organise en ce moment même, en liaison avec la Direction générale du contrôle, le séminaire de formation des contrôleurs financiers à la méthodologie de l'audit interne. Depuis le week-end dernier, un drame secouait le village de Niangban, situé dans la sous-préfecture de Guébonois, département de Bouaké. Bien, 7 personnes sont mortes après avoir consommé de la bouillie de maïs. Plusieurs autres victimes sont hospitalisées au CHU de Bouaké. Nous en avons parlé avec Joseph Assalé, notre correspondant sur place. Eh bien, c'est la fin de ce mardi midi sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Francis Cassi.
Bonjour à tous. C'est par le commentaire de vos journaux sur les résultats combinés des récentes élections locales et sénatoriales.